France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Merci, Sandy, the house. Halia,
Radio Rosana,
Piparis. Produce
gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Quand une entreprise est valorisée bien plus haut que sa valeur et qu'elle investit énormément mais ne rapporte rien ou pas grand-chose, ça s'appelle une bulle financière prête à exploser, comme le disent beaucoup d'économistes. Voilà ce qui va se passer pour l'IA. Est-ce que c'est grave, docteur? C'est le sujet de notre première conversation d'un jour dans le monde. Louise Baudet remet le monde à l'endroit avec la photo du jour, c'est celle de Bolsonaro devant ses juges. Et avec Combastin, nous sommes juchés sur un tas d'ordures haut comme une montagne ce soir. C'est le premier reportage d'une série sur New Delhi qui veut se refaire une santé écologique.
J'ai entendu les promesses d'un parc ici depuis des années. Je comprends qu'on veuille fermer la décharge pour l'environnement, mais c'est pas si simple.
Un reportage à découvrir vers 18h38. C'est grâce à Guillaume Auda. Vous saurez également ce qu'est le forum des systèmes alimentaires qui vient de s'ouvrir à Dakar. Vous entrerez aussi dans la salle des chefs d'État au Conseil européen avec Caroline Gillet. Le monde est vaste, les amis, on n'a qu'une heure. Allons-y.
The US market is reacting to a new report finding that 95% of companies have not seen a return on investment from Gen AI. And controversial comments from tech CEOs.
C'est la semaine dernière qui parle d'une étude très sérieuse d'ailleurs qui a été aussi dévoilée par le MIT qui a fait tanguer la bourse. On va y venir. Bonsoir Gilles Babinet.
Bonsoir.
Ça vous a fait rire. On va expliquer dans un instant. Vous êtes multi-entrepreneur, président de la mission Café IA qui entend offrir des ressources, des contacts, du lien social aussi lié à l'IA. L'étude en question et l'affolement en question dit en gros que 95% des projets d'intelligence artificielle générative ne créent aucune valeur mesurable. Donc cette nouvelle-là a fait tanguer très sévèrement les bourses. Et puis derrière, il y a eu Sam Altman qui est le pape de l'IA, le patron d'OpenAI, qui dit « Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une bulle de l'intelligence artificielle, évidemment, et que ça peut exploser. » Donc qu'est-ce qu'on dit, Gilles Babinet? Est-ce qu'on dit « c'est pas quand, c'est si » Est-ce que c'est si ou plutôt quand Et surtout, est-ce que c'est grave?
Oui, alors il y a une vraie inquiétude, et je vais vous dire, moi qui ai quelques cheveux blancs, j'ai vécu ça en 2000, on a eu une bulle sur les marchés de la tech qui était assez brutale. Et en fait, c'est potentiellement grave si ça vient dans un contexte de macroéconomie qui est lui-même un peu fragile.
Et là, c'est le cas ou pas?
Oui,
c'est-à-dire si ça explose maintenant, ce sera plus grave que si ça a explosé.
Alors, moi, je suis pas futurologue, mais en tout cas, si d'autres événements venaient à se synchroniser avec ça, on a un problème sur les marchés de taux aux États-Unis. On a vraiment des inquiétudes sur le marché obligataire. Ça peut devenir assez grave. Après, les marchés de la technologie, c'est réputé pour être des marchés de bulles. On a eu ça avec les crypto-monnaies, les technologies crypto en général. Ça s'est dégonflé sans faire de mal. Là, les montants en jeu sont considérables. Hein. On parle de 1000 à 1200 milliards qui ont été investis dans les trois dernières années. C'est des montants qui sont très importants, du jamais vu. Et donc, on pourrait avoir un peu d'inquiétude si ça venait à craquer.
Alors déjà, au passage, moi j'ai trouvé assez marrant quand même que ce soit Sam Altman lui-même qui alerte. Est-ce qu'il alerte parce que... Donc il faut vraiment s'inquiéter parce que c'est lui-même qui a une forme de crainte et le patron là-dedans, c'est un peu lui. Ou est-ce que c'est aussi une manière de secouer les bourses, justement, pour pouvoir commencer à faire une sorte de ménage, en fait, parce que s'il y a cette inquiétude, il y en a un certain nombre qui vont disparaître, des petites boîtes, parce que des boîtes à l'IA générative, d'ailleurs, des petites start-up, il y en a plein, ça fait une espèce de ménage, ne serait-ce qu'avec une parole de Sam Altman, y compris pessimiste comme celle-ci.
De la part de Sam Altman, c'est vraiment une stratégie extrêmement étudiée, et l'idée, c'est de se dire qu'il est le plus gros, il a 700 millions d'utilisateurs, il a de très loin les plus gros revenus de toutes les entreprises.
Lui, il a les reins super solides, quoi qu'il arrive.
Alors, super solide, je dirais pas ça, parce qu'il est quand même en permanence en train de lever de l'argent. Mais il se dit, si on devait mourir, je serais le dernier à mourir. Et donc, de fait, c'est une stratégie d'essayer de rendre les levées de fonds plus difficiles aux autres. Donc, de dire, je pense qu'il y a effectivement une bulle. Et ce faisant, de révéler ce que tout le monde pense tout bas.
Parce que ce qui est quand même assez fascinant, c'est que l'IA ait créé, effectivement, généré une multitude de petites start-up qui investissent énormément, qui sont incroyablement valorisées, mais qui, au fond, sont du vent, ne valent rien. On peut entendre ce qui s'est passé. Ce qui est assez fascinant, c'est que les très gros sont en train d'investir beaucoup. Amazon investit énormément. Facebook va emprunter de l'argent, alors qu'ils ont déjà un capital qui est absolument monumental pour essayer de ne pas perdre le fil, pour être en face. Est-ce que si la bulle éclatait, ces très gros-là sont réellement en danger eux aussi, en fait?
Non, ils ne le sont pas parce qu'ils ont des revenus récurrents qui sont considérables et ils génèrent du profit de façon structurelle. Ça fera certainement un cours de bourse qui sera beaucoup moins élevé. Mais si vous voulez, pour ces acteurs-là, ils sont au-dessus de la ligne des nuages. Mm-hmm. Donc ils resteront là à cet égard. Là où je pense que ça peut faire beaucoup plus de mal, c'est finalement avoir une déception qui contamine l'ensemble des bourses, qui fait que l'emprunt de l'argent est beaucoup plus élevé et ça ralentit toute l'économie potentiellement américaine. C'est ce qu'on a connu en 2000 et ça a été durable puisque là-dessus, on a eu le 11 septembre. Et finalement, l'économie a été dans un mode déflationniste pendant 4 ans.
Donc, alors, il y a eu effectivement un facteur extérieur qui a été le 11 septembre, qui a de toute façon rendu les choses encore plus difficiles. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce qu'on décrit sur la bulle de l'IA aujourd'hui qui risque d'exploser, c'est exactement la même chose que ce qu'on décrivait, effectivement, c'est ce que vous dites, quand la bulle de l'Internet a explosé, donc une capitalisation boursière de certaines sociétés qui dépassent très largement des revenus. Ce sont effectivement des emprunts qui sont colossaux et qui manquent de valeur derrière. Et on a l'impression qu'il se passe exactement la même chose. Est-ce que ça veut dire qu'on n'apprend rien, Gilles Babinet, ou est-ce que ça veut dire que c'est inhérent à ce genre de technologie?
Ah oui,
de toute façon, on est obligé de passer par un moment, ça gonfle, c'est une bulle, ça éclate, on repart.
Et vous avez beaucoup d'historiens de l'économie qui vous disent en fait, sur une échelle de 300 ou 400 ans, on a pratiquement une centaine de bulles qui se créent. Et que les bulles sont structurelles de l'accélération de l'économie. C'est-à-dire que quand vous avez des révolutions technologiques, le chemin de fer, le téléphone ou Internet, vous créez des bulles, et finalement, c'est à peu près normal. La question, c'est combien ça fait de dégâts quand ça éclate. Ça peut se dégonfler en douceur. J'ai du mal à le croire. Je pense que face effectivement aux papiers du MIT qui disent que la productivité n'est pas là...
Alors, j'allais y venir parce que c'est ça aussi, en fait. Il y a de doubles inquiétudes. Il y a aussi effectivement ce papier qui dit... mais en fait, ça sert à quoi, en fait? Donc, il y a 80... Ils disent que 80, plus de 95%, là aussi, c'est Daron Acemoglu qui dit ça, des entreprises, en fait, ça ne produit rien, en fait. Donc, fait, c'est rien. C'est très volatile. Mais est-ce qu'on ne se fait pas une erreur d'analyse? Parce que ce qui ne produit rien aujourd'hui, qu'est-ce qui produit l'année prochaine? Enfin, la vitesse à laquelle va IA est tellement colossale.
Mais exactement, et là encore, la comparaison avec la bulle de l'Internet est intéressante. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en 2002 avec tout un tas d'analystes qui disaient en fait, Internet, ça sert à rien, c'est un truc complètement secondaire, c'est juste fait pour faire un peu de communication. Regardez où on est aujourd'hui, c'est vraiment structurant du monde moderne. Et l'IA est une révolution sur le long terme. Pour moi, c'est une révolution extraordinaire, probablement comparable à l'électricité. Simplement, la précipitation est en train de détruire une valeur conséquente.
Ça veut dire qu'on compte trop sur un effet transformatif immédiat. Même sur l'IA, il faut jouer long terme parce qu'on a l'impression que les choses changent à la vitesse de l'éclair et que c'est pas long terme qu'il faut jouer, c'est à la limite moyen terme. Mais
vous savez, c'est très emmené par quelques acteurs. Effectivement, vous avez cité Sam Altman, il y a quelques autres du même acabit qui lèvent des milliards d'euros et qui n'y arrivent qu'en faisant des promesses complètement démesurées. Ce qu'on appelle d'AGI, c'est-à-dire d'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire l'équivalent de vous et moi, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus intelligent que vous et moi, avec beaucoup de respect pour votre intelligence. Mais néanmoins, cette promesse, c'était d'avoir des sortes de systèmes qui sont tellement intelligents qu'ils vont créer une richesse démesurée.
Mais est-ce que... Pardon, allez-y.
Et en fait, si vous voulez, la grande déception, c'est aussi la sortie de GPT-5, donc de ChatGPT-5, où depuis 2 ans, Sam Altman nous dit « ce sera une AGI ». Et en fait, c'est juste un peu mieux que le dernier.
Très déceptif, effectivement, pour les gens qui l'ont utilisé. Mais est-ce que, justement, c'est pas ça qui est assez fascinant s'agissant de l'IA? Parce qu'il y a effectivement la bulle qui est spéculative. Il y a ce que vous dites sur ce que ça rapporte. Est-ce que ça veut pas dire aussi, et peut-être que GPT-5 en est l'une des clés, qu'on est arrivé à un point de technologie pour l'instant qu'on ne sait pas dépasser? En fait, on est au bout, on lui a fait manger tout ce qu'il fallait qu'elle mange, l'IA, mais on a du mal, finalement, maintenant, à la faire progresser. Et puis, un facteur supplémentaire derrière, il y a l'énergie. On en arrive au stade où on va se balader avec une centrale nucléaire dans le sac à dos pour pouvoir faire fonctionner l'IA. Donc, est-ce qu'on n'est pas arrivé, de toute façon, à un taquet? il va falloir passer le stade supérieur, on en est très loin.
Oui, c'est à peu près ça. Alors moi, je pense qu'il y a encore des gains de progression à faire, parce que tous ces systèmes sont quand même sous-optimaux. Hein. On peut vraiment les améliorer de façon forte. Mais ce qu'on appelle les technologies de LLM, qui sont au cœur de ces grands modèles que tout le monde utilise, sont un peu en train de trouver leurs limites. On a tout un tas de voies pour aller plus loin. Mais vraisemblablement, ce n'est pas ce qu'on appelle des technologies exponentielles, c'est-à-dire que là, dans 2 ans, on a une rupture majeure en termes d'intelligence. Malheureusement, on va devoir plutôt attendre des décennies ou plutôt de longues années avant d'arriver à ça. Et ce n'est pas du tout ce qu'anticipaient les gens qui financent ces entreprises.
Qui gagne de l'argent avec l'IA aujourd'hui, d'ailleurs ? Mais est-ce que Sam Altman, en dehors de la valorisation d'OpenAI, est-ce que Sam Altman gagne de l'argent ?
Non. Il y a une entreprise qui gagne incontestablement de l'argent, c'est NVIDIA. C'est le fabricant
Donc les puces,
des microprocesseurs qui font de l'intelligence artificielle. Donc ça, cette entreprise, elle est hautement profitable. Et c'est l'une des rares entreprises qui gagne de l'argent. Il y a d'autres entreprises, comme par exemple Microsoft, qui gagnent indirectement de l'argent. C'est-à-dire que ça leur permet de vendre leurs produits traditionnels, leur suite bureautique, en disant on a mis de l'intelligence artificielle dedans, et donc c'est un argument marketing.
Du coup, si je vous suis, Gilles Bavinet, il y a la bulle de l'IA qui peut éclater. Vous nous avez parlé des cryptos peu de temps avant. Il y a eu ce moment crypto, on ne sait pas très bien où on en est aujourd'hui. On a évoqué la dette également. Est-ce que ça veut dire que ça peut péter dans l'un de ces trois côtés, et que l'un, de toute façon, aura des vases communicants avec l'autre ou pas ?
Vous savez, moi, encore une fois, je ne suis pas futuriste. En revanche, ce que je constate dans l'histoire, c'est que quand vous avez des événements négatifs qui se synchronisent, ça se passe très mal. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a une instabilité géopolitique qui est quand même très prononcée. Si ce phénomène de bulle de l'IA venait avec un événement géopolitique un peu important, ça pourrait mal se passer. C'est vraiment pas ce que je souhaite.
Est-ce que les freins réglementaires sont aussi l'une des raisons pour lesquelles on va arriver à un plafond et peut-être un éclatement? Et les freins réglementaires, c'est notamment les nôtres, d'ailleurs, contre lesquels, en ce moment, Donald Trump est en train d'essayer de se battre.
Oui, alors, écoutez, il n'y a pas de freins réglementaires aux États-Unis. Il y a un grand débat sur est-ce qu'il faut réguler ou pas aux États-Unis, qui est un débat qui est, à mon avis, loin d'être terminé. Effectivement, en Europe,
mais c'est intéressant, pardon, je vous interromps, et on va revenir à l'Europe. Après l'histoire de l'adolescent aux États-Unis, c'est Sam Altman lui-même, en fait, c'est OpenAI qui a dit que, finalement, ils allaient instaurer une sorte de mécanisme de contrôle parental sur son outil. Donc il y a quand même des choses vers lesquelles on va, même aux États-Unis.
Alors, il ne faut pas écouter que OpenAI, parce que Sam Altman a été le premier à dire « je veux mettre de la sécurité », ce qu'il n'a pas fait.
Oui, c'est vrai.
Ce qui a abouti à l'éclatement de l'équipe de management de OpenAI. Mais il y a d'autres acteurs, comme Dario Amodei, par exemple, qui sont très sensibles... Voilà, Anthropic, à la notion de ce qu'on appelle safety, de sécurité là-dessus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque J.D. Vance a dit « on ne mettra pas de régulation dans les 10 ans et on va le mettre dans la loi », eh bien, vous avez plusieurs acteurs, dont ceux qui sont à la tête de ces grandes entreprises, qui ont dit « ça serait une erreur ». Il faut un minimum de régulation. Peut-être pas autant que les Européens, mais il faut de la régulation parce qu'ils ont bien compris que s'il y a un accident majeur, eh bien, ça peut se retourner contre eux et on peut geler, un peu comme on l'a fait avec le nucléaire, avec Fukushima, les investissements.
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on a les moyens de lutter de toute façon et de conserver notre réglementation, nous, face aux mastodontes qu'ils sont déjà, qui vont grandir aussi, et évidemment le chantage de Trump en face? On a les moyens de tenir sur cette barricade-là ou pas?
C'est le test majeur pour l'Europe. En fait, c'est vraiment le test sur nos valeurs, notre culture, nos modèles économiques, nos systèmes sociaux, etc. Dans la mesure où l'IA sera absolument partout demain, si on baisse la garde face à Trump et on accepte sa demande de ne pas avoir de régulation sur les entreprises américaines, objectivement, on perd notre souveraineté. Et donc, pour moi, c'est le moment politique de l'Europe. Est-ce que l'Europe est capable de s'affirmer comme une puissance politique en tenant tête à Trump sur ces aspects-là?
Une toute dernière question, et il nous reste une poignée de secondes. Je voudrais que les choses soient très très claires pour les gens qui nous écoutent. On parle de l'IA générative, même si quelque chose explose en la matière. Est-ce que ça change quelque chose pour l'IA qu'on utilise aujourd'hui à des fins médicales et qui fonctionne évidemment très bien, qui sont des progrès monumentaux, l'IA qu'on utilise, je sais pas, pour la voiture autonome, pour autre chose, etc. Est-ce qu'il faut aujourd'hui séparer l'IA générative, ce qu'elle provoque, et l'autre IA, si je puis dire.
Alors, il faudrait, idéalement, il faudrait faire exactement ce que vous dites. Malheureusement, les deux sont profondément entremêlés en matière de financement, et que s'il n'y a plus de financement pour le génératif, il y en aura beaucoup moins pour l'IA médicale que vous évoquez.
Gilles Babinet, merci beaucoup de votre passage merci. Dans Un jour dans le monde. Je le redis, votre dernier livre, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, donc je le dis, s'appelle Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat. Et c'était publié l'année dernière aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. La suite, c'est vous, Louise Baudet, qui allez remettre le monde à l'endroit.
Avec un procès historique au Brésil, quand la démocratie se défend, ça fait du bien par les temps qui courent.
Allez, merci de nous écouter. À tout de suite.
Depois de buscar na noite a tua paz despedaçada, depois de atirar no mundo a tua mágoa amanhecida, vai buscar meu ombro amigo, meu abraço, teu abrigo. Vai gritar meu nome à toa num quarto vazio. Depois de ganhar o meu amor por quase a vida inteira, depois de jogar no lixo uma paixão tão verdadeira, já faz tempo eu fui embora. Você gritava, eu duvido, e agora ouve a minha praga sussurrando em seu ouvido. Você vai se arrepender de me tratar assim. Vai rodar noites em claro na busca sem fim. Você vai se arrepender de me tratar assim. E a cada copo de bebida se lembrar. Sussurrando em seu ouvido. Você vai se arrepender de me tratar assim. Vai rodar noites em claro na busca sem fim.
Voyage mélancolique au Brésil avec Tim Bernardes qui chantait Praga. C'est dans la playlist de France Inter. Et justement, le Brésil, on y reste. C'est le monde à l'endroit.
Fabienne Saintès. Le 18-20.
Louise Baudet, Jair Bolsonaro, donc derrière les barreaux, le scénario se précise. À rebours de l'ère du temps, la démocratie serait-elle plus forte que la tentation autoritaire?
Ouais, même les soutiens les plus ardents de l'ex-président brésilien se sont fait une raison. En toute logique, Jair Bolsonaro va être condamné à l'issue de son procès pour tentative de coup d'État. Un autocrate déchu qui se dit malade au point de ne pas pouvoir assister à son procès, enfermé à double tour dans sa résidence sous bracelet électronique, privé de ses réseaux sociaux, bref, aux abois, sa seule échappatoire, une hypothétique loi d'amnistie. Contraste saisissant avec le succès de son allié idéologique et politique Donald Trump, qui en 6 mois de présidence a engagé une métamorphose spectaculaire de la démocratie américaine. Reprise en main de la justice, militarisation du maintien de l'ordre, intimidation des médias et des opposants politiques.
Ce qui ressemble au projet politique mis en œuvre par Jair Bolsonaro pendant ses 4 ans de présidence.
Oui, avec en prime côté Bolsonaro, la nostalgie revendiquée de la dictature torture militaire et de ses tortionnaires. Son procès n'en est que plus historique. Première fois qu'un ancien chef de l'État brésilien doit répondre d'une tentative de coup d'État. On est pourtant 40 ans après le retour de la démocratie, mais les chefs de la dictature n'ont jamais été traduits en justice du fait d'une loi d'amnistie qui a assuré une transition pacifique au prix de l'impunité.
Donc apparemment pas d'impunité cette fois. Les juges de Bolsonaro assurent qu'ils ne se laisseront pas intimider et un visage incarne cette détermination.
Oui, celui d'Alexandre de Moraes, le rapporteur du procès, juge puissant, clivant. Sous la présidence Bolsonaro, il a lutté sans relâche contre la dérive autoritaire du régime et ses fake news. C'est lui qui ordonne l'arrestation de plus de 2000 putschistes après les émeutes du 8 janvier 2023. Encore lui qui ouvre une série d'enquêtes à l'origine du procès en cours. Toujours lui qui, début août, assigne à résidence Jair Bolsonaro, puis ordonne une surveillance permanente. Un persécuteur aux méthodes marxistes, dénonce l'ex-président et ses soutiens, dont le plus fervent, Donald Trump. On y revient. Alexandre de Moraes est la bête noire du président américain qui l'accuse de mener une chasse aux sorcières et qui a obtenu du Trésor américain le gel de ses avoirs aux États-Unis.
Et les sanctions ne s'arrêtent pas là, Louise, on en parlait d'ailleurs hier. Trump a dégainé l'arme des droits de douane.
Oui, 50% de taxes additionnelles sur plusieurs produits brésiliens, punition contre-productive même. Bolsonaro, depuis sa résidence surveillée, n'a pas pu la défendre. Résultat, Lula est remis en selle au point de penser à un quatrième mandat. La défense de la souveraineté nationale emporte étendard et la droite brésilienne est fracturée entre les bolsonaristes jusque-boutistes et ceux qui pensent qu'aucune victoire ne sera possible sans rupture avec l'ex-président et ses héritiers. Alors si le feuilleton judiciaire est entré dans son épilogue, ce feuilleton-là, politique et diplomatique, ne fait que commencer. D'autant que Donald Trump pourrait, dit-on, en cas de condamnation, dégainer de nouvelles sanctions contre le Brésil et ses juges.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage est à Delhi, ce soir, la capitale de l'Inde, où Un jour dans le monde se pose pour trois jours et se pose, pardon de le dire comme ça, sur un tas d'ordures. La situation environnementale de New Delhi est catastrophique, montagne de déchets, air toxique, fleuve empoisonné. Cette mégapole de 30 millions d'habitants est au bord de l'asphyxie. La nouvelle municipalité a donc juré de remédier à la situation et elle n'est pas la première à le faire. Alors est-ce que cette fois-ci, New Delhi va changer? Est-ce que c'est ce que nous verrons dans ces trois prochains jours? On commence donc sur ces décharges hautes comme des montagnes et le reste, c'est Combastin qui raconte.
Depuis l'autoroute, la décharge apparaît comme une montagne à l'horizon. Mais en approchant, l'odeur pestilentielle ne laisse pas de doute. Et Balsfa, l'une des trois décharges géantes de Delhi, révèle son visage apocalyptique.
Très tôt, les camions arrivent et grimpent la colline pour déverser les ordures de Delhi. On court derrière pour ramasser le plastique. C'est dangereux quand il pleut, cela devient glissant. Certains tombent et ne se relèvent pas.
Nazir vient de descendre avec précaution. Il a 21 ans et il habite avec sa famille dans le bidonville installé au pied de la décharge. Comme lui, ils sont des milliers à vivre ici du ramassage des déchets.
On travaille dur pour 100 euros par mois, dont 20 euros partent dans le loyer. C'est juste suffisant pour manger. La pollution ici, elle est partout. Le sol, l'air, tout est infecté. On tombe malade, mais on continue.
Le BJP, le parti du peuple indien, celui du Premier ministre Narendra Modi, a remporté les élections de la capitale en février 2025. Il assure avoir pris conscience de l'urgence écologique à Delhi.
Les décharges sont un grand problème sanitaire. Depuis notre élection, nous avons évacué en moyenne 24 tonnes par jour. Notre objectif est que fin 2027, toutes les décharges soient éliminées.
Le ministre de l'Environnement de Delhi veut vider Balsfa et la transformer en un parc urbain verdoyant.
J'ai entendu les promesses d'un parc ici depuis des années. J'ai rien constaté pour le moment. Je comprends qu'on veuille fermer la décharge pour l'environnement. Mais c'est pas si simple.
À Balsfa, Zuleika tente un drap pour se protéger du soleil lorsqu'elle trie les plastiques sur une plaine recouverte de déchets. La fermeture annoncée de la décharge l'inquiète plus qu'autre chose.
Les déchets, c'est notre seul moyen de survivre. Dans ce cas-là, dites au gouvernement de nous trouver un autre gagne-pain. Mais je me fais pas d'illusions.
Pushpa, 58 ans, milite depuis 2002 ici, lorsque d'anciens bidonvilles ont été rasés et que leurs habitants ont été relogés près de la décharge. Elle a obtenu des avancées, comme l'ouverture de deux écoles, mais elle pousse un cri d'alerte sur la situation sanitaire.
L'eau qui sort des pompes est noire. Même sans la boire, son simple contact provoque des allergies. Tout le monde est affecté par des problèmes de peau, des maladies respiratoires, des troubles de la vision. Death hangs in the air, it's not metaphorical. Off the charts, the wrong kind of historical. In essence, 50 safe, 200 evacuation. Delhi and 100 close.
Ce rappeur de Delhi critique l'absence d'action face à la pollution. Voilà depuis 2019 que le National Green Tribunal a ordonné l'évacuation des millions de tonnes de déchets de Balsfar. Pushpa craint que les annonces récentes restent une fois de plus lettre morte.
Les sols sont bien trop pollués pour faire pousser un parc ici. Quant à fermer la décharge, si c'est pour qu'elle se reforme plus loin et avec elle les bidonvilles, ça ne sert à rien. Il faut travailler sur la chaîne des déchets et proposer un avenir aux habitants.
Pour se débarrasser des ordures, les gouvernements successifs de Delhi ont construit des incinérateurs. Les déchets brûlés génèrent en retour de l'électricité, mais vu leur quantité et l'absence de tri, ces centrales énergétiques recrachent des gaz toxiques qui aggravent la pollution de l'air de la capitale, souvent décrite comme la plus polluée au monde.
Comme Mastin, à demain pour la suite de cette série de reportages dans la capitale indienne. La suite, c'est Guillaume Audin qui a été la dénichée pouf pouf sous les radars, hein, Guillaume.
Oui, dans l'ordre, ça donne ça. Le Kentucky, c'est là qu'elle se cache sous les radars pour une interview avec un alien, enfin presque, faite par une jeune femme en bikini, enfin presque.
Allez, wow. Caroline, disons, quel teasing, Caroline Gillet, comme chaque mardi, derrière les portes closes de l'Europe, Caroline.
Oui, s'il y a un lieu de pouvoir dans les institutions européennes, il est là, le Conseil européen, visite avec l'une de celles qui aident les chefs d'État à trouver des compromis.
Et ça, c'est juste après un petit détour par Londres dans les années 80 avec Siouxsie and the Banshees, Spellbound sur France Inter. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends you spinning. You have no choice. You hear life. Asphyxie and the Banshees, Spellbound dans Un jour dans le monde, l'actualité internationale passée sous les radars. C'est Guillaume Audat.
Avec ses atouts, l'Afrique pourrait contribuer à nourrir le monde.
Guillaume, c'est le président sénégalais qu'on entend, Bassirou Diomaye Faye, qui donne le coup d'envoi du 15e forum africain des systèmes alimentaires.
Et il affiche ses ambitions, Bassirou Diomaye Faye, à la fois pour le pays qu'il préside, le Sénégal, mais au-delà pour le continent noir. Sa promesse, elle est simple à ce fils d'agriculteur devenu président. L'Afrique pourrait devenir l'un des principaux greniers du monde et donc générer d'immenses richesses pour au moins deux raisons. D'abord, ce continent abrite 60% des terres arables de la planète, encore disponibles et non cultivés, donc le potentiel, il est énorme. Ensuite, parce que dans un monde où l'Europe, l'Amérique et une partie de l'Asie sont en train de vieillir, seule la jeune Afrique tire son épingle du jeu. Elle devrait être peuplée, cette Afrique, par 2,5 milliards d'habitants en 2050. Il y a donc à venir une main-d'œuvre abondante. Voilà pourquoi la jeunesse africaine est au cœur de ce forum des systèmes alimentaires. Il dure toute la semaine à Dakar où 6000 personnes, des ONG, des chercheurs, des entrepreneurs vont discuter innovation, investissement, transformation de l'agriculture africaine pour cultiver l'avenir du continent.
What brings a being like yourself to rural Kentucky?
Well, Brenda, your planet's reality television is simply out of this world.
Nous sommes dans le Kentucky. Guillaume, et là, ce qu'on entend, c'est un alien qui répond à une jeune femme en bikini.
Voilà, il s'agit d'une interview qui se déroule au beau milieu des champs, qui met en scène une sorte de Roswell à qui un micro de chaîne d'info est tendu. C'est complètement absurde, et d'autant plus que cet alien répond à une jeune femme blonde en bikini bleu. Tout ça n'existe pas, mais tout ça n'existe tellement pas que ça finit par exister. Et surtout, quand c'est vraisemblable, sont les vérificateurs de l'agence France Presse qui dévoilent ce phénomène. Il inonde les réseaux sociaux de la planète, TikTok, Instagram, Snapchat, etc. La fausse interview en bikini, en gros des contenus à pas cher, ultra réalistes, dont beaucoup sont fabriqués en Inde grâce aux intelligences artificielles. Voilà, ça fait des vidéos médiocres, des vidéos sexistes, mais voilà, elles sont rentables parce que ça génère du clic et forcément les algorithmes poussent ce genre de contenu et incitent à en produire. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que les IA n'ont pas inventé la misogynie, elles ne font que refléter et suramplifier un phénomène qui existe déjà. Donc derrière l'aspect technologique, on voit bien que le combat le plus important, il demeure encore et toujours, il est social et culturel.
Iranian authorities have executed at least 841 people since the beginning of the year.
Et puis, Guillaume, à New York, les Nations Unies alertent en Iran, on exécute à tour de bras.
Voilà, et elle décrit une réalité proprement glaçante. Ravina Shamdastani, la porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU. En Iran, depuis janvier dernier, 841 personnes condamnées à mort ont été exécutées. On a déjà pratiquement atteint les chiffres de 2024, alors qu'il reste 4 mois avant la fin de l'année 2025. Dans un pays, nous rappelle Amnesty International, où la quasi-totalité des exécutions capitales se fait par pendaison. Alors depuis la guerre des 12 jours de cet été entre l'Iran et Israël et puis les États-Unis, la répression est devenue extrêmement féroce. Le régime cherche ses espions, les collaborateurs, mais en réalité, le filet est nettement plus large. Il cible également les opposants, c'est ce que disent les voix dissidentes. Et ainsi, les arrestations se multiplient, les procès se déroulent hors de toute procédure légale, en l'absence d'avocats indépendants. Et mécaniquement, le rythme des exécutions accélère. Silence, on tue. C'est ce que dit sommairement l'ONU, qui réclame un moratoire immédiat sur l'application de la peine de mort en Iran.
Guillaume Audace sous les radars tous les soirs dans Un jour dans le monde. À demain, le mardi, Caroline Gillet met les pieds dans la porte de toutes les institutions européennes.
France Inter, le 18-20.
La semaine dernière, Caroline, on était avec Athénaïs de Casalis.
Oui, qui travaille au Conseil dans le bâtiment Europa, un bâtiment très reconnaissable, une sorte d'œuf géant dans une boîte en verre.
Voilà, un bâtiment reconnaissable pour une institution avec des gros pouvoirs, le Conseil européen.
Oui, c'est ici que se réunissent les 27 chefs d'État, 4 fois par an minimum, lors de sommets. Les sommets, ça les Bruxellois connaissent bien. Toute la ville est alors bloquée pour assurer la sécurité des dirigeants qui s'enferment plusieurs jours dans une salle pour prendre des décisions. Et cette salle, Athénaïs dit que c'est comme le cœur du réacteur d'une centrale nucléaire. C'est de là que vient l'énergie, l'accès est limité et c'est mystérieux. Or, elle y a accès. Elle passe parfois des nuits autour de la salle pour aider à la rédaction des compromis. Elle nous l'a fait visiter et pour faire mousser encore un petit peu plus cette chronique, je commence par lui demander quelle institution européenne a le plus de pouvoir selon elle.
Si vous me posez la question à moi, je vous dirais que l'institution la plus puissante, c'est le Conseil européen. Parce qu'on est à l'endroit où tous les décideurs sont là ensemble, ils ont besoin de se référer à personne d'autre s'ils ont la possibilité d'aller vers ce compromis-là, ils y vont.
Par exemple, c'est ici que s'est prise la décision pour les 27 d'emprunter en commun lors de la crise Covid.
Si on veut, on peut dire le Conseil européen fixe l'objectif en disant on doit atteindre cette montagne et ceux qui construisent la route, la Commission, le Conseil, le Parlement européen qui construisent la route pour arriver jusqu'à la montagne.
Et donc cette route, elle est imaginée dans une salle, celle-là même où on se trouve, où se réunissent les 27. Elle a un nom grandiose qui frappe les esprits, comme souvent dans les institutions européennes.
C'est la salle S3.
Je les imagine se demander comment nommer cette salle emblématique, où vont être prises des grandes décisions pour 450 millions d'Européens. Et bien finalement, ils se sont dit, vous savez quoi, ce sera S3. S3 comme la salle de Labo Sciences 3 de n'importe quel collège. Peut-être que quelqu'un a ajouté, bon au moins ce sera pas prétentieux.
On est donc dans une salle qui est ronde.
Au sol et au plafond, des motifs quadrillés de couleurs vives.
Avec une grande table où on voit les noms des États membres, répartis autour de la table dans l'ordre des présidences du Conseil de l'Union européenne.
Les présidences du Conseil de l'UE, c'est la fameuse présidence tournante qui change tous les 6 mois, et en ce moment, c'est le Danemark.
Et donc ça veut dire que tous les 6 mois, la salle se décale d'un cran.
Donc on reste toujours à côté de la même personne.
Absolument. Ce qui crée aussi des affinités entre des pays qui n'ont pas forcément des rapports géographiques ou des intérêts liés.
Suomi, c'est quoi ?
C'est le nom finlandais pour la Finlande.
Ensuite, il y a l'Allemagne qui très soif, le chancelier allemand, puisqu'il y a deux grandes bouteilles d'eau. Portugal, Slovénie et voilà la France. La France est entre la Slovénie et la République tchèque, c'est ça ?
C'est ça.
Oh, il y a une petite cloche.
Ça, c'est pour le président de séance, c'est pour dire arrêtez de discuter et maintenant on commence la discussion.
Lors des sommets dans cette salle, il n'y a que les chefs d'État et de gouvernement, ce qui fait 27 places autour de la table, plus ceux et celles qui sont là, mais sans droit de vote. La secrétaire générale du Conseil de l'UE, Thérèse Blanchet, qui est la chef d'Athénaïs, le président du Conseil européen, Antonio Costa, et Ursula von der Leyen, de la Commission, qui ensuite traduit ce qu'elle a entendu en proposition.
Les portes se ferment, c'est un système de double porte, donc on n'entend plus du tout ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qui se passe dans cette pièce reste dans cette pièce. Ils sont seuls en salle à représenter les intérêts de leur État membre.
Seul. Donc il n'y a pas de conseiller, pas de ministre, pas d'ambassadeur, pas d'ordinateur d'ailleurs. Juste ce que j'ai dit et des interprètes.
Moi je sais que je connais plein de gens qui sont quand même vraiment fâchés contre le Conseil parce qu'ils ont l'impression que c'est obscur et inaccessible.
Faut pas oublier qu'au Conseil, on est ici dans une salle où ce sont des personnels politiques démocratiquement élus qui prennent des décisions. Voilà.
Ils prennent peut-être leurs décisions en faisant des chifoumi, peut-être qu'ils lancent des actions vérité, personne ne saura jamais. Tout ça est opaque. Et c'était l'idée de départ proposée par Giscard d'Estaing. Une discussion au coin du feu, toute porte fermée.
Ils se réunissent à huis clos pour prendre des décisions qui ont trait à ce qu'ils veulent faire en commun. Et donc ça implique d'avoir des discussions qui sont franches, qui sont authentiques, plus personnelles aussi parfois. En fait, la table, le centre est suffisamment petit pour que quand on est assis, on voit vraiment son interlocuteur en face, dans le blanc des yeux. Il ou elle est proche. Et quand on parle à quelqu'un.
Je ne sais pas à côté de qui j'aimerais être assise. Qui est le plus sympa, le plus marrant, qui fera passer l'eau, qui écrira des petits mots rigolos sur les petits bouts de papier.
Ouais. C'est...
Mais parce que vous, votre travail, c'est de les aider à prendre ces décisions. Et malgré tout, vous n'êtes pas là.
En fait, j'ai les yeux et les oreilles de la secrétaire générale qui est assise à la table. Et sur la base de ce qu'elle me dit, je suis là en back-office, disponible pour tout ce dont elle aura besoin pour faire son travail de soutien à la négociation.
Et comment est-ce qu'on aide à la décision et au compromis ?
On connaît les positions des administrations. On a peut-être cette valeur ajoutée de pouvoir veiller à la cohérence du texte, à la cohérence par rapport à ce qui s'est dit dans le passé, par rapport à ce qui s'est dit dans d'autres formations du Conseil. Donc on a ce tour d'horizon, ce qui nous permet aussi de faire des suggestions de compromis, de ressortir du langage qui avait été testé, mais de l'amender pour mieux correspondre aux besoins de la salle, pour qu'ensuite les chefs, quand ils le voient, disent « Ok ». Une phrase qu'on entend beaucoup, c'est « I can live with this text », c'est-à-dire « bon, c'est pas ce que moi j'aurais préféré, mais c'est quelque chose que je suis en mesure d'accepter, je peux vivre avec ce texte ».
Ça doit être fascinant d'observer ça, c'est très frustrant de ne pas pouvoir le faire.
Exactement, pour ça il faut devenir chef d'État ou de gouvernement. Heureusement, il y a 27 possibilités.
Ça vous, voilà. Vous reste à faire,
ou
Caroline.
Oui.
Peut-être, ouais.
Mardi prochain, peut-être une commissaire, figurez-vous.
Ben écoutez, I can live with that, comme elle dit. Allez, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h et c'est Florence Paracuellos. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir à tous.
Ce soir, mes chers parents, je pars.
Oui, on parle de ces jeunes pour qui cette rentrée est synonyme d'installation loin des parents pour des études ou pour une autre raison. Peut-être pas encore totalement autonome financièrement, mais enfin libre. Anne-Claire revient à peine d'installer son fils de 18 ans à plus de 700 km de la maison. C'est un jeune dégourdi. Je ne suis pas inquiète pour le quotidien. Il est loin, mais il est heureux de démarrer les études qu'il a toujours voulu suivre. Et ça me comble. Même tonalité chez Benoît. Mes deux enfants quittent la France pour la Belgique pour poursuivre leurs études. Je trouve que c'est un moment magnifique où nos enfants se révèlent.
01 45 24 7000, même chemin par WhatsApp pour vos messages et aussi pour vos notes vocales.